Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Jocelyne Moussa Opondé.
Poursuite à Nairobi des consultations entre les groupes armés locaux de la RDC et les experts de la présidence congolaise. Ces consultations se tiennent toujours sans le M23 de Makenga qui a repris les combats sur le terrain. Ouverture ce mardi à Bangui du deuxième forum régional de sensibilisation et de renforcement des capacités des médias sur la prévention des conflits liés aux discours de haine et la lutte contre ces phénomènes en Afrique centrale. Des responsables des médias en ligne et blogueurs de 11 pays y prennent part. Prosper Amouli est notre invité. Le responsable de programme au sein de l'ONG Action pour la paix et la concorde va s'exprimer en marge d'un atelier récemment à Bukavu sur les techniques des manipulations à travers les réseaux sociaux. Bonjour à tous. Les consultations entre les groupes armés locaux de la RDC et les experts de la présidence congolaise se sont poursuivies hier lundi à Nairobi au Kenya, et selon le mandataire spécial du président de la République et chef de la délégation de la présidence de la République à ses pourparlers. Le professeur Serge Tshibangu l'a déclaré hier au cours de l'émission Dialogue entre Congolais animée par Kelin Kouté. Il a aussi précisé que le M23 de Makenga est toujours exclu de ces consultations pour avoir épris les combat à surterrain. On écoute le professeur Serge Tshibangu dans cet extrait proposé par Alain Young.
Les assises continuent, effectivement. Après avoir commencé très timidement, le premier jour, comme vous l'avez annoncé, qui était samedi, nous avons eu à peu près 7 groupes armés qui sont principalement du Sud Kivu, qui sont arrivés dimanche, et nous nous attendons à avoir une bonne représentation des groupes armés, que ce soit de Nord Kivu comme de l'Ituri.
Combien de groupes armés sont invités à ces assises?
La vérité, c'est que vous devez d'abord savoir que c'est un processus qui vient de démarrer. Un processus veut dire qu'il y a des étapes. Et pour le moment, nous avons les quelques groupes armés qui sont malheureusement les plus violents, qui sont invités. Et l'idée, c'est au fur et à mesure que le processus sera entamé, on va continuer. Bien sûr, tous les autres groupes armés seront sûrement consultés. La précision ici, c'est que nous ne parlons pas ici de négociation. Par contre, selon la volonté de Son Excellence le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est question de leur parler et de les écouter et parler pour leur passer le message clair qu'il est temps de déposer les armes, qu'il est temps de se rendre inconditionnellement.
Vous pouvez réécouter, voir, télécharger l'émission Dialogue entre Congolais d'hier soir sur la poursuite des négociations de Nairobi en allant sur www.radiokapi.net. Et de son côté, le gouvernement provincial de l'Ituri rassure que toutes les dispositions sont prises pour la participation des différentes milices de cette province à ces consultations. Selon le responsable de la cellule de communication de contact, sont en cours avec leurs leaders, dont ceux de la CODECO, de la FRPI et de la FPIC. Le lieutenant Jules Ngongo rapporte que le chef de l'exécutif provincial, le général Johnny Luboyan Kachama, est, selon lui, engagé pour accompagner toutes les initiatives pour la recherche de la paix et la restauration de l'autorité de l'État. Il a été joint par Isaac Rémo.
Pour nous, c'est une obligation d'accompagner toutes les initiatives allant à la recherche de la paix et à la restauration de l'autorité de l'État. Pour le gouverneur militaire ici, en province de l'Ituri, c'est dans cette approche globale appui à toutes ces initiatives que les dispositifs sont mis en œuvre pour que ceux-là qui ont répondu à l'appel du commandant suprême des forces armées à participer à l'édifice qui est la paix, sont mis en œuvre pour que tout ce monde-là y rende. Nous y travaillons déjà et la FRPI est concernée. Et un de ces quatre matins, la FRPI, avec son chef milice, sera déjà de la partie. Et tous nos services sont déjà déployés pour être en contact avec tous les leaders des CODECO. Nous sommes déjà déployés pour entrer en contact avec tous ces leaders pour raison de paix.
Pendant ce temps, les groupes armés actifs au Maniema disent être surpris de ne pas participer à ces assises de Nairobi. Ces derniers voudraient savoir quel est le critérium de sélection des groupes armés qui doivent participer à cette rencontre. Ils ont adressé leur plainte au président de la société civile Force Vive du Maniema. Maître Stéphane Kamundala explique au micro de Florence Kiza.
On ne réagirait pas dans le cadre de la société civile si on n'avait pas de réaction des groupes armés présents au maniement, qui savent que l'unique recours ne peut être que destiné ou adressé à la société civile. C'est ainsi qu'il nous est posé autant de questions parce que les groupes armés du maniement sont absents dans ces assises. Quel est le critérium de sélection des groupes armés qui doivent participer à ces assises au niveau de Nairobi? Est-ce que ce n'est pas une manière d'exclure d'autres Congolais qui sont en train de vouloir aussi abandonner la guerre, les mouvements armés pour être au moins relevés des armées. Donc il revient au président de la République de voir comment impliquer tous les groupes armés. Sinon le maniement va toujours demeurer dans l'insécurité étant donné qu'il ne se retrouve pas dans tout ce qui se passe au niveau national. Mais aussi, c'est l'occasion pour le dire, comment de telles assises peuvent se tenir à Nairobi sans la présence de la société civile, de la République démocratique du Congo en général, et de l'Est, là où il y a l'activisme de ces groupes armés en particulier. Sinon, en amont, on exclut, mais en aval, on pourra avoir l'importance de la société civile.
Il s'ouvre ce mardi à Bangui, la capitale de la République centrafricaine, le deuxième forum régional de sensibilisation et de renforcement des capacités des médias sur la prévention des conflits liés au discours de haine et la lutte contre ce phénomène en Afrique centrale. Ce forum, qui se tient du 26 au 29 avril, réunira un parterre des journalistes responsables des médias en ligne et des blogueurs venus de 11 pays d'Afrique centrale, notamment de l'Angola, du Burundi, du Cameroun, de la République centrafricaine, du Congo, de la République démocratique du Congo, du Gabon, de la Guinée équatoriale, du Rwanda, du Sao Tomé et Principe et du Tchad. Au menu, les échanges des expériences sur les outils onusiens et les dispositifs légaux pour juguler les discours de haine dans la partie du centre du continent. Pamela Loubaki.
Organisé par le Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale UNOCA et la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale CEAC, ce deuxième forum, qui fait suite à celui tenu à Douala au mois d'octobre 2021, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action des Nations Unies pour la lutte contre les discours de haine lancé le 18 juin 2019 par le secrétaire général Antonio Guterres. Le forum va être aussi une plateforme de réflexion et de sensibilisation au cours de laquelle plusieurs communications de chercheurs, universitaires, éditeurs, journalistes, responsables des organes de régulation, partenaires gouvernementaux, représentants du système des Nations Unies et de la commission de la CEAC vont être articulés autour des questions de l'ampleur du discours de haine dans les médias en ligne d'Afrique centrale, son impact négatif sur la paix, la sécurité et la cohésion sociale, les dispositions légales et réglementaires en la matière, les enjeux éthiques et déontologiques, la responsabilité sociale des journalistes, les perspectives en termes de régulation et de l'autorégulation. Depuis Bangui, Pamela Loubaki pour Radio Okapi.
Radio Okapi a entamé mais depuis hier, une série de reportages explicatifs sur la 5e commission de l'Assemblée générale de l'ONU. Hier, nous vous avons expliqué l'importance de cette composante qui s'occupe des aspects budgétaires et administratifs de l'ONU. Dans ce deuxième reportage, Cynthia Bachizi explique la relation entre le Conseil de sécurité et la 5e commission de l'Assemblée générale.
C'est le Conseil de sécurité qui établit et définit les modalités pratiques pour le déploiement d'une opération de maintien de la paix, le cas de la MONUSCO par exemple. Et bien évidemment, cela demande beaucoup de moyens, ainsi donc le financement de ces opérations à l'ensemble des États membres de l'ONU qui constituent l'Assemblée générale. Et le budget est adopté par la 5e commission avant d'être approuvé par l'Assemblée générale. D'où proviennent les ressources? Simplement des contributions obligatoires mais aussi volontaires des États membres. L'Assemblée générale définit la quote-part que doit verser chaque État membre. Cet organe tient compte notamment de la richesse économique relative de chaque pays. Mais aussi, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité sont tenus de verser une quote-part plus élevée en raison du rôle primordial qu'ils jouent en ce qui concerne le maintien de la paix et la sécurité internationale. Ainsi, les 5 plus gros contributeurs au budget de l'ONU sont les États-Unis, la Chine, le Japon, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France. À eux seuls, pour l'année 2021, ils ont pris en charge plus de 60% des dépenses relatives aux opérations de maintien de la paix. Il est clair que sans cotisation des États membres, il sera difficile pour les opérations de maintien de la paix d'aider les pays touchés par les conflits à créer des conditions pour un retour à la paix. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Poursuite hier lundi à Lubumbashi des travaux de la conférence interprovinciale entre les provinces des espaces Grand Kasaï et Grand Katanga pour la journée d'hier, plusieurs structures ont été reçues par les membres du bureau de cette conférence composée des gouverneurs des deux espaces. Chaque groupe a expliqué ce qui pourrait être à la base des tensions entre les communautés katangaises et kasaïennes, tout en proposant les pistes de solutions. Parmi ceux qui ont été reçus, il y a également les membres de l'Union sacrée pour la nation et ceux de l'opposition, dont ceux du Front commun pour le Congo. Jean Gandou nous fait le point.
Pour ce lundi, les membres du bureau de la conférence ont reçu en premier la jeunesse katangaise. D'après le président de cette jeunesse, Kati Lambo, ce qui serait à la base des tensions entre les deux communautés, c'est entre autres le non-respect par la jeunesse kasaïenne des autorités établies, le non-respect de la culture katangaise. Kati Lambo a aussi proposé qu'une autre conférence réunissant les provinces du Grand Kasaï soit organisée pour débattre de la question de l'exode rural afin de le freiner. Cette jeunesse se dit disposée à vivre en harmonie avec toutes les autres communautés. Quant au motocyclisme, les cyclistes accusés d'être à la base des tensions à cause de leur comportement, ces derniers ont indiqué que c'est à tort qu'ils sont indexés comme des semeurs de troubles. Ils ont toutefois fustigé les traitements dont ils sont victimes de la part des forces de l'ordre qui les identifient par rapport à leur provenance ethnique. Quant à la jeunesse kasaïenne, il n'y a pas de conflit entre les deux communautés. Tout motocycliste n'est pas forcément un ressortissant kasaïen. Par rapport à l'exode rural, Dadi Kazadiwambombo, leur président, a demandé au gouverneur de l'espace Grand Kasaï de développer leur milieu par l'électrification et la construction des routes, qui fera venir les investisseurs qui créeront les entreprises et offriront de l'emploi aux jeunes. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Depuis samedi dernier, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a déclaré la 14e épidémie de la maladie à virus Ebola à Mbandaka. C'est à la suite du décès vendredi d'un étudiant de 31 ans qui était admis au centre de traitement d'Ebola dans la zone de santé de Wangata. Environ 74 cas contacts ont été pistés en vue de leur suivi et éventuelle prise en charge. Cependant, la majorité de la population n'est pas informée ni consciente du danger. Les gestes barrières ne sont pas observés en famille et dans les lieux publics. Reportage de Paul-Richard Malengela.
Pendant notre ronde ce lundi au centre-ville et dans plusieurs quartiers de Mbandaka, tout se déroulait normalement. Dans les marchés, les écoles, les services et tant d'autres lieux publics, les gens s'embrassaient comme si de rien n'était. Les motards transportaient 3 à 4 passagers sans souci de distanciation physique. Pas de lave-mains ni de prise de température devant ces lieux publics. La majorité de la population se dit alors ignorante, comme cette dame et ces jeunes hommes rencontrés au grand marché de Mbandaka 2. Je ne suis pas au courant, peut-être qu'on va nous informer ce soir, alors nous allons appliquer les mesures d'hygiène. Moi, je ne sais pas, cela peut être vrai, mais l'information n'a pas encore circulé par ceux qui écoutent la radio. Jean-Marie Mibeko est parmi les rares Mbandakais conscients de la 14e épidémie d'Ebola qui frappe la ville. Mais cet acteur de la société civile estime que la situation était prévisible, faute de résilience après la dernière épidémie.
Les guéris d'Ebola n'ont pas eu l'accompagnement. Lorsqu'on a déclaré la fin de l'épidémie, on devrait commencer les activités de résilience.
En définitive, il faudrait plutôt multiplier des activités de sensibilisation en vue d'amener la population à prendre conscience et à s'impliquer ouvertement dans la lutte, ont souligné les observateurs. Mbandaka, Porche Malengue, la Radio Okapi.
Une délégation de la Commission électorale nationale indépendante a transité à Mbujimayi au Kasaï oriental en partance pour Cabinda dans la province de Lomami. Cette délégation est allée superviser les activités de recrutement et de formation des préposés à la collecte des données cartographiques. D'autres délégations sont déployées dans les autres provinces du pays pour une mission similaire. Que peut-on retenir de la cartographie électorale? Élément de réponse dans ce reportage d'Esther Dalafina.
La cartographie est la réalisation et l'étude des cartes géographiques et géologiques. Elle est aussi une représentation des données sur un support réduit représentant un espace généralement tenu pour réel. Dans le cadre des élections, la cartographie électorale, appelée aussi cartographie opérationnelle des centres d'inscription des électeurs, est l'ensemble d'opérations de collecte des données des lieux où les électeurs seront identifiés et où ils se rendront pour accomplir leur devoir de vote. Elle permet aux parties prenantes au processus d'empêcher la fraude électorale. L'actualisation de la cartographie électorale permet à la CENI de se conformer aux actes exécutoires ou dispositions relatives au statut actuel de certaines entités administratives devant être retenues comme circonscriptions électorales. Les préposés à la collecte des données géographiques ont pour rôle d'identifier le lieu des anciens centres, leur accessibilité, leur viabilité et émettre un avis autour de leur rapprochement vis-à-vis de potentiels électeurs. La CENI compte déployer d'ici quelques jours, plus de 9000 préposés à la collecte des données, disséminés dans plus de 5900 groupements et 385 communes pour la prochaine révision du fichier électoral de plus de 24000 centres d'inscription. Signalons que la dernière cartographie électorale a eu lieu en 2018.
Actualité internationale.
À Moscou, malgré les vives tensions actuelles, le président russe a réagi à la réélection d'Emmanuel Macron en France hier en lui souhaitant du succès dans sa gestion du pays. C'est sous la forme d'un très court message sur le site du Kremlin que Vladimir Poutine a félicité son homologue français en lui souhaitant également santé et bien-être. Au Burkina Faso, l'audience du procès sur les intérêts des parties civiles dans l'affaire Thomas Sankara et ses 12 compagnons s'est ouverte hier lundi au tribunal militaire de Ouagadougou. Comme dommages et intérêts, la famille Sankara demande un franc symbolique, tout comme les avocats burkinabés qui se sont constitués aux côtés de la famille du père de la révolution burkinabé.
L'invité.
Notre invité est Prosper Amouli, responsable de programme au sein de l'ONG Action pour la paix et la concorde, APC. Il s'exprime en marge d'un atelier organisé récemment à Bukavu pour sensibiliser les citoyens sur certaines techniques des manipulations à travers les réseaux sociaux et ainsi mieux les combattre. C'est notamment les discours de haine et la désinformation. Prosper Amouli s'entretient avec Cynthia Bachizi.
Prosper Amouli, bonjour.
Bonjour.
Pour le moment, on assiste vraiment à une montée des discours de haine. Hein. Est-ce que cela est le fait aussi des différentes manipulations que vous dénoncez ici?
Sur le plan culturel, nous avons un moyen qui pourtant devrait être un bon moyen, ce sont les réseaux sociaux. Et vraiment, par cette voie-là, on distille toutes sortes de discours, étant donné que toute personne qui est présente dans les réseaux sociaux se présente comme étant un journaliste, quelqu'un capable de transmettre l'information. Et les discours de haine passent par là, malheureusement aussi. Nous sommes des grands croyants, parfois, et on trouve dans les églises des discours de haine qui sont distillés. Maintenant, comment déconstruire ça?
Exactement.
Voilà. C'est pour ça que nous réunissons aujourd'hui, pour que les jeunes puissent voir quelles sont les forces de paix qui existent, que nous avons, et quels sont les éléments connecteurs que nous avons, sur lesquels il faut vraiment mettre la main. Lorsque je constate que je suis manipulé, la première réaction, c'est la honte. Donc, je vais disparaître. Je ne vais pas vraiment me montrer comme quelqu'un qui a été manipulé. Je constate que ce que je produis comme comportement aujourd'hui, c'est le résultat de la manipulation. Mais justement, il faut d'abord reconnaître qu'on a été manipulé et ensuite résister, c'est-à-dire dire non. En tant que personne, en tant qu'individu, j'ai dit non parce que la personne voudra vérifier si sa manipulation a réussi, justement en me mettant à l'épreuve, en essayant de me faire faire des choses, même contre ma volonté. On voit ça avec les jeunes. On peut vous envoyer dans une manifestation, mais vous ne savez pas ceux qui ont préparé la manifestation, ils voulaient quoi. Mais vous allez le savoir après. Mais justement, il faut revenir et dire, c'est fini, aujourd'hui je trace la ligne. Prochainement, vous ne me verrez pas dans votre manifestation.
Manipulation et désinformation, c'est la même chose selon vous?
La désinformation est une forme de manipulation parce que la manipulation a plusieurs formes. La désinformation, c'est-à-dire le fait de diffuser une information qui manifestement est fausse. La personne qui diffuse sait très bien que c'est faux. C'est très bien. Mais voudrait influencer le comportement de la cible. C'est à ce moment-là que ça devient une désinformation. La réalité existe, la personne la connaît, mais informe sur ce qui n'existe pas. Et il veut justement que ceux qui vont l'écouter, ceux qui vont le suivre, ceux qui vont le lire puissent réagir d'une certaine manière. C'est ça la désinformation. Ce n'est pas la seule manipulation qui existe, il y en a d'autres.
Comment aujourd'hui vous pensez qu'on peut mettre fin à la désinformation dans un monde inondé par les réseaux sociaux?
Il y a des outils de contrôle mis en place dans les réseaux sociaux. Il faut les utiliser. Il y a des ateliers d'éducation aux médias et à l'information. Il faut participer ou bien il faut organiser ces ateliers-là.
Mais comment quelqu'un aujourd'hui qui reçoit par exemple une information sur WhatsApp va directement penser que c'est une fausse information? Est-ce que vous avez des indicateurs comme ça qui peuvent aider les gens à déceler une fausse information?
Vous parlez de WhatsApp, vraiment, c'est là la grande source d'information pour nous. Dès que c'est sur WhatsApp, nous pensons que c'est vrai. La première chose est de prendre du recul, de dire qu'est-ce que je viens de lire et qui m'a envoyé ça et il peut m'avoir envoyé ça pourquoi? Donc, commencer déjà à se poser soi-même des questions sur sa propre réceptivité par rapport à l'information qui est diffusée. Si cela n'est pas fait, on risque de dire, ah oui, parce que c'est une personne influence, c'est mon pasteur, ou bien c'est mon député, ou bien je ne sais pas, c'est mon enseignant, mais on risque de partir sur cette image-là et ne pas se rendre compte que la personne peut elle-même diffuser quelque chose sans avoir vérifié. Donc, déjà, moi-même, je me mets en question. Je dis stop.
Avant de transférer ce que vous avez reçu.
Qu'est-ce que je viens de lire? Qu'est-ce que ça signifie? Et qu'est-ce qui est derrière? Si vous commencez à vous poser 3 grandes questions, 4, 5 questions comme ça, vous verrez que vous allez voir cette information différemment. Mais si vous la voyez, vous dites, oui, c'est intéressant et vous transférez. Mais lorsqu'on va vous montrer que c'était faux, vous-même, vous aurez honte, vous allez vouloir disparaître.
Et vous devenez aussi co-auteur dans cette chaîne de désinformation.
Bien sûr, mais bien sûr. J'ai été content que dans l'atelier des jeunes disent, il faut une loi sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui ouvre un groupe WhatsApp, il devrait avoir des responsabilités par rapport à ce groupe WhatsApp-là. Où il y a des informations qui sont diffusées, c'est lui l'administrateur. Mais la loi devrait dire, il devait être interpellé par rapport à sa responsabilité dans le groupe qu'il est en train de gérer.
Je vous remercie.
C'est moi.
C'est par ici que prend fin ce journal coordonné par Alain Hirung sous la supervision de Martin Sebujangwe, Polydor Basunga, la mise en onde. Merci de nous avoir suivis.